la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir. Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Schiste pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Attention, 1, 2, 3...
Et re-bienvenue à votre émission d'actualité internationale chez le voisin à Schiste 94.3. Je sais pas pour vous, mais moi je suis plus Bet99 plutôt crypto-monnaie. Là, j'étais en train de parler à Seb, puis à chaque semaine on en parle beaucoup de crypto-monnaie. Je pense que cette semaine ça va être un peu plus calme, là, mais je me rendais vite compte que lui c'est vraiment l'expert. Là. C'est pour ça que quand on en parle, Seb, il s'impose un peu plus que moi. Mais évidemment, ça m'intéresse toujours autant, mais je suis comme le petit élève à côté du maître qui est comme « Ah oui, explique-moi ça ». Puis je me rends compte que j'aurais beaucoup plus de chances de faire de l'argent en bettant sur genre le Canadien de Montréal ou le Lightning. Hier, c'était le Lightning, mais il y a encore des chances. Si le Canadien remporte en 5 matchs, ce qui est possible, c'est genre ça finit le 7 juillet. Fait que 7, chiffre porte-bonheur, tout est possible encore. Mais évidemment, ce n'est pas un conseil financier. Comptez pas faire de l'argent avec ça, Bet99 ou genre whatever, quelle plateforme vous êtes là-dessus. Là, RDS, ils font aussi des pools. Bref, c'était toute une intro pour dire que cette semaine, la crypto...
Le Canadien, d'ailleurs, hier, ça a fini quoi? Ça a fini 5-1?
Ouais, mais c'est comme j'ai dit, là, c'est un signe, 5-1, non, c'est 4-1, j'ai dit. 4-1. C'est à zéro rapport. Non, ben, la série pourrait finir 4-1 Canadien encore. Ça a fini 5-1 hier. C'était un massacre. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il essaie des amadoués. C'est-à-dire que, tu sais, t'es laisse gagner comme avec un gros pointage, puis là, le Lightning, ils font genre... facile, le Canadien, je sais pas comment ils se sont rendus là, puis bang, 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 bang.
Comme le vieux truc quand tu joues au billard, tu sais, avant de parier, t'es là, hey, tu veux toujours une game de billard, puis t'es full poche, là, puis t'es là, ah, merde, me semble d'habitude, ça va mieux que ça, puis finalement, t'es là, hey, on parie dessus.
C'est ça,
paf, 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 ouais.
Si le Canadien, il gagne, c'est pas nécessairement qu'ils ont une bonne équipe, c'est qu'on leur jeu psychologique est à point, puis je pense que c'est ça qui va écraser le Lightning. Non, sérieusement, je suis pas tant à ça, c'est comme vraiment la nouvelle que je suis, parce que, ben, tu vois juste ça sur Radio-Canada. Je pense que la plus grosse nouvelle qui revient, c'est le Canadien, ce qui est assez impressionnant, parce que dans les derniers temps, c'était quoi, pandémie, Justin Trudeau, Legault avec le troisième lien, puis le Canadien, Canadien, Canadien. Autant je suis pas un fan, autant je suis comme... À la limite, ça fait changement.
Ouais, ça fait changement.
C'est comme tabarouette.
Je pense que les gens en avaient besoin un petit peu. Là. Moi, je me suis amené derrière ce même micro. J'avais dit, t'sais, on voit tellement de chiffres. Là, dans la dernière année, mon gars, là, on a vu des chiffres là, de façon pléthorique, surabondante. Il me semble qu'à un moment donné, j'étais là, je suis comme saturé de chiffres. Il y a comme tellement de chiffres différents qui sortent de la pandémie. Là. Ne serait-ce que la moyenne mobile, les confinements, les ci, les ça, que la manée, il me semble que. Moi, j'ai comme tendance un petit peu à vouloir retenir des chiffres souvent. T'sais, quand je les vois, là, je m'intéresse aux nouvelles. Puis évidemment, on fait l'émission présente. Fait que c'est sûr que c'est pertinent d'avoir des chiffres à dire. Puis t'as l'air d'autant plus crédible dans une discussion quand t'es capable de backer ce que tu dis par des chiffres. Au lieu de dire t'es beaucoup ou pas beaucoup, mais t'es capable. quand même mettre un nombre là-dessus. Puis là, je me disais qu'à un moment donné, j'étais là, hein, tu sais, faut complètement que je me détache de tous ces chiffres-là. Un, ça change à tous les jours. Puis deux, ben, je veux dire, tu sais, à un moment donné, c'est ce qui est vrai une journée, il est plus vrai le lendemain. Fait que là, je pense que t'as raison. D'ailleurs, les nouvelles se sont beaucoup orientées autrement. Mais je pense que, un, ça fait du bien aux citoyens, mais ça doit faire du bien aux journalistes aussi. Tu sais, là, me semble, tu sais, quand t'as couvert, tu sais, que, tu sais, je parle juste de nous qui animent une émission. Hey, on a-tu parlé de la pandémie, tu penses? Puis, on va en parler aujourd'hui. Moi, d'ailleurs, j'en parle un petit peu aujourd'hui.
T'en as, hey, c'est une grosse nouvelle. J'ai rien sans pandémie cette semaine. Fait que tu vas être la petite touche qui nous rappelle que c'est
j'aurais
là.
J'aurais dû faire puis, pareil.
Non, mais en même temps, je pense que c'est important, tu sais, de se rappeler que c'est
ben, regarde,
toujours
check, là. On va tasser ça tout de suite.
Ben oui, allons-y.
Puis après ça. On n'en parlera plus.
Yes.
La nouvelle que j'ai par rapport à la pandémie, ben, c'est pareil au variant Delta. On en parle quand même assez souvent. On entend même parler des échos au Canada. Là, la ville de Sydney, en Australie, va reconfiner pour 2 semaines. Du moins, un confinement initial pour 2 semaines. On connaît ça ici, des confinements pour 2 semaines qui durent X nombre de temps supérieur. Mais ça reste que 2 semaines de confinement pour les 5 millions d'habitants. Puis d'ailleurs, quelque chose que tu as déjà parlé à l'émission, la bulle aérienne avec la Nouvelle-Zélande a été suspendue. Mais c'est pas juste en Australie que ça inquiète, puis c'est pas juste en Russie que ça va, en Australie que ça va pas bien, parce que le variant Delta il a été identifié pour la première fois en Inde en avril, puis il serait présent dans 85 pays selon l'OMS, dont la Russie que j'ai de mentionner par erreur. Puis la Russie à Saint-Pétersbourg, ils ont recensé un nombre record de décès la semaine dernière, puis samedi dernier, 107 décès en 24 heures, 21 000 cas samedi dernier. C'est quand même des gros chiffres pour le stade où est-ce qu'on est dans la pandémie. Les contaminations sont supérieures de 25 % par rapport aux 7 jours précédents.
Ben, ce qui est assez impressionnant en Russie, puis vous l'avez peut-être vu passer dans les nouvelles, là, dans les gros titres, c'est un peu partout, mais tu sais, la Russie qui était ce grand gagnant de la course au vaccin, tu voyais dans les nouvelles, bon, c'était sûrement très propagandiste parce que tu voyais les gens aller se faire vacciner et qui étaient comme, ah, je fais ça pour la Russie, je fais ça pour la mère patrie à la limite. C'était très patriotique, là, carrément. Puis là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de monde qui s'est fait vacciner que ça. Puis les gens se sont comme un peu assis sur leur laurier, puis ont fait « Ah, c'est passé ». Puis non, la campagne de vaccination russe est un peu foireuse, finalement, puis on s'en rend compte avec, ben je veux dire, le nombre de contaminations assez élevé, là, puis je dis assez élevé, je pense que c'est des records, fait que c'est très élevé, là.
Sûrement très sous-estimé.
Oui, puis c'est ça. Puis là, tu as juste parlé de Saint-Pétersbourg. Moscou aussi, il y a eu des records de contamination. Les deux plus grosses villes de Russie, il y a des records de contamination, c'est très inquiétant. Puis là, évidemment, comme tu l'as dit, on éclipse tout le reste du pays. Là, c'est un grand pays, la Russie, 180 millions d'habitants. Fait que Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est pas nécessairement représentatif de tout ce qui se passe. Des chiffres probablement sous-estimés, comme tu l'as dit, mais qui est assez étonnant, justement, quand on pensait que les Russes allaient gagner non seulement cette course au vaccin, mais puisqu'il y avait le vaccin en premier, ben cette course à la vaccination, puis non. Force est de constater que c'est une grosse défaite de ce côté-là.
Je suis tout à fait d'accord, puis c'est le meilleur exemple de cordonnier mal chaussé. Là. C'est-à-dire que la Russie, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, ils ont sorti Sputnik V avant tout le monde, mais est-ce que le fait qu'il ait sorti avant tout le monde a été une épée de Damoclès pour eux, puis a fait que les gens sont plus méfiants? Assurément aussi qu'il y a un facteur que peut-être que les gens sont un peu plus méfiants de leur gouvernement là-bas. Tu sais, ici, j'ai l'impression que, bon, Santé Canada nous dise quelque chose, on va avoir tendance à dire « OK, on pense que ça a été regardé de façon rigoureuse et étanche, donc conséquemment, je peux faire confiance à ce que Santé Canada me dit. » Évidemment, ils se trompent des fois. Mais tu sais, je pense qu'en Russie, cette espèce de relation citoyen-gouvernement-là est un petit peu plus émaillée, émaciée, là, à cause, justement, bon, un grand nombre d'historiques qu'il y a derrière ça. Puis, parmi les autres pays dans le monde qui sont affectés par le variant Delta. On parle du Bangladesh, où est-ce qu'il y a un nouveau confinement à partir de hier. On parle de Taïwan, où est-ce qu'il y a les premiers cas transmis localement. On parle du Royaume-Uni, on parle du Portugal, où est-ce que le variant est prédominant. Puis, tu sais, mets-toi juste psychologiquement à penser, qu'est-ce que ça fait ça? Tu sais, quand on regarde partout dans le monde, ça déconfine, les gens se font inoculer, les gens ont leur deuxième dose, ça va de mieux en mieux, pratiquement tout renaît tranquillement. Puis là, tu sais, fais juste imaginer si dans genre 3 semaines, le gouvernement Legault était là bien malgré lui, puis disait, hey, là, il commence à avoir de plus en plus de cas, il commence à avoir de la transmission locale, il faut reconfiner paf, en plein été, ça serait capoté. Là, à quel point que, qu'il y aurait, que les complotistes ressortiraient, qu'il y aurait un manque d'adhésion. Je pense que rendu à ce stade-là, c'est difficile.
Ouais, ben, surtout qu'on l'a pas vécu l'année passée pendant l'été. Hein, ça serait nouveau de confiner alors que c'est la plus belle période de l'année. Il y a plein de gens qui sont en vacances. Ça ne te tente pas de rester chez vous quand tu es en vacances. Quand il fait beau comme ça, tu pourrais argumenter. En tout cas, moi, je peux pas argumenter que je pourrais rester à l'intérieur parce que j'ai pas d'air climatisé. Puis je pense qu'il y en a aussi pas mal qui ont pas d'air climatisé. Puis ça leur tenterait d'aller à piscine municipale, à la plage, chez leurs parents, grands-parents, aller se baigner chez un cousin, tu sais, quelque chose de même. Fait que ça a l'air ridicule de même, mais l'été, là, oh là là, je pense que ça serait compliqué d'essayer de, tu sais, rentrer les gens chez eux alors que c'est tout le contraire qu'ils veulent faire, à part pour mon oncle qui a genre son gros air climatisé. Puis encore là, mon oncle qui s'est découvert une passion jardin un peu avant le confinement. Fait que, tu sais, je veux dire, même lui, je pense qu'il serait contre rendu là. Tu sais, c'est plein d'exemples pour te dire que le défi déjà qui était de taille en automne, hiver, printemps, imagine en été alors que les gens sont en vacances, veulent sortir, puis ont probablement déjà prévu, comme moi, des sorties en camping puis des affaires comme ça. Bonne chance, ça va être vraiment un gros coup pour le moral, hein, puis ça a l'air niaiseux, mais pour la campagne électorale de Legault qui a l'air déjà commencé des fois, là, même si c'est la campagne fédérale qui a l'air d'inquiéter le plus en ce moment. Bref, un gros défi. Puis j'ai une question pour toi, tu sais, concernant la Russie, un petit flashback là, sur ce que tu as dit. Tu sais, effectivement, on peut douter, tu sais, des organisations gouvernementales de santé, surtout là-bas, mais en fait, gouvernementales en général. Puis surtout, tu sais, de la propagande anti-occidentale. Est-ce que tu penses qu'il y aurait, tu sais, il aurait pu dire à leur population, regardez, notre vaccin a été approuvé par un magazine scientifique, sauf que ce magazine scientifique-là, il est occidental, puis il bâche tout le temps. Est-ce que, tu sais, ça aurait pas pu nuire, tu sais, cet argument-là qu'il aurait pu utiliser, il aurait dû dire, ah, ben regardez, les Occidentaux, ben ils ont raison, tu sais. C'est... Dans le fond, tu perds toute crédibilité sur tous les plans. Non seulement t'es corrompu, mais en plus, tu dis à ta population de pas te fier à l'Occident, puis ta seule preuve de fiabilité, c'est l'Occident.
C'est l'Occident.
Fait que là, t'as plus aucune arme pour dire à ta population, ben regardez, c'est fiable. Rendu là, c'est un peu se tirer dans le pied de pas avoir, tu sais, des liens très étroits avec, tu sais, les agences de santé allemandes, françaises, européennes, américaines, nord-américaines, même
avec
au Canada.
L'OMS.
Oui, l'OMS en général.
Puis tu sais, je pense qu'un autre facteur qui entre par rapport, si on parle de la vaccination, ben tu l'as mentionné tantôt, la Russie, c'est un gros pays. T'sais, quand tu regardes, exemple, le pays qui a été le plus efficace au monde à vacciner sa population, c'est Israël. Israël, sont, mettons, 8,5 millions. C'est un super petit pays. T'sais, la Russie, c'est immense. Fait que comment est-ce que tu vas rejoindre les gens qui sont vraiment plus en campagne, qui ont vraiment, t'sais, je veux dire, c'est des cliniques mobiles de vaccination. T'sais, c'est intelligent, mais ça reste que, t'sais, à quel point est-ce que c'est efficace? Puis là, je m'en souviens, il y avait eu un petit reportage sur Radio-Canada qui était super intéressant par rapport au sujet. Ils suivaient une clinique mobile en Russie. Puis la clinique mobile, là, il se pointait, puis le monde, il la regardait, puis il n'allait pas se faire vacciner. Là. T'sais, les autres, tu voyais un Russe, il était dans son jardin en camisole, puis il était là, moi, j'ai pas besoin de me faire vacciner. Il était là, gars, moi, je suis passé à travers telle famine, genre, puis c'est pas un virus qui va me tuer.
Ben, quand tu vois, en plus, je veux dire, une petite vanne gouvernementale arriver, tu te dis, genre, c'est-tu le KGB, genre, qui arrive pour arrêter ma famille? Je vais pas trop m'approcher au cas où. Fait que, ouais, je présume que, qu'il y a des petits peurs comme ça. Je dis pas que le KGB, c'est la peur principale, mais tu l'as dit, tu sais, je veux dire, ils en ont passé des moments rough. Fait qu'une pandémie, pour eux, c'est un petit pet, là. On exagère probablement un peu, mais il y a cette méfiance-là envers le gouvernement. Il y a le fait que, tu sais, la Russie, c'est pas leur première catastrophe naturelle, mais aussi catastrophe, tu sais, humaine avec Tchernobyl en Ukraine et tout. Fait que, ouais, des affaires tough, ils en ont passé, puis... Ça m'étonne pas des Russes, ces gros ours-là qu'on croit comme invulnérables puis qui se croient eux-mêmes invulnérables. C'est comme un peu cliché, mais on a cette preuve-là devant nos yeux, en quelque sorte, là, devant nos écrans.
Puis je me souviens, tu sais, au début de la pandémie, où est-ce que quand des fois tu avais des médecins un petit peu dissidents, tu sais, qui parlaient justement que, tu sais, le gouvernement disait telle affaire, puis tu avais un autre médecin qui contredisait le gouvernement puis qui disait non, tu sais, si on regarde les données, il y a tant de morts, si on regarde les certificats de décès, si on regarde les crématoriums, etc. Puis je me souviens qu'en Russie, spécifiquement, il y avait des médecins qui, entre guillemets, disparaissaient. T'sais, qui tombaient accidentellement en bas d'une fenêtre, t'sais, là, je veux dire, d'un hôpital. Enfin, bref. Puis je reviens sur un savoir que tu as dit à quel point il fait chaud présentement. Ben, au Canada, dans le village de Lytton, j'imagine qu'on dit en Colombie-Britannique, cette semaine, ça a battu le record de température jamais enregistrée au pays. record jamais enregistré au pays avec 46,1 degrés Celsius selon Environnement Canada. 46,1 degrés Celsius. Qui a même dû corriger à la hausse cette donnée à 46,6. Puis le record précédent, c'était 45 degrés Celsius. Puis ça a remonté à juillet 1937 en Saskatchewan. Fait qu'il fait chaud.
Ben, Kamloops, qui est relativement connu ces temps-ci, 42 degrés Celsius. Il y a des 40 degrés Celsius qui frappent à peu près plein de villes, villages en Colombie-Britannique. Alberta aussi très frappé. Puis hier, on l'a dit, fait que c'est à peu près ça qui ça devrait durer. Là. On est encore dedans, mais une semaine environ de canicule, imagine ça, deux jours, puis je suis comme un porc. Eux, c'est genre, ça va être une semaine, puis eux, c'est des canicules pour vrai, là. Eux, c'est 10 degrés au-dessus de ce qu'on a en ce moment.
Man, 46 degrés, là, je sais pas comment la vie fonctionne à 46 degrés, là, mais tu sais, moi, je serais complètement non opérationnel, là. Je sais qu'il y a même des écoles qui fermaient parce que les écoles n'avaient pas l'air climatisé. Imagines-tu aller écouter une classe, imagines-tu le prof en chest qui essaie d'enseigner en avant, là, ça marche pas.
Tu sais, qui s'essuie puis qui demande des rafraîchissements à ses élèves à chaque deux secondes, là, qui a ses petits servants sur le côté qui sort des Kool-Aid, je sais pas. Mais c'est pour ça qu'ils ont dû fermer, parce que les profs en chest, ça passe, moi, je pense, Seb. Fait que, ouais, mais nous qui est habitués de fermer des écoles pour, je veux dire, des tempêtes de neige, eux, c'est des tempêtes de chaleur, c'est ridicule là-bas. Genre, Edmonton, en ce moment, nous, théoriquement, il fait 27, mais bien évidemment, avec le soleil qui tape, ça fait plus. Mais imaginez, Calgary, Edmonton, c'est 10 degrés de plus que ça. 37, Calgary, 38, Edmonton, des grosses villes, là, en plus, pas beaucoup d'endroits, tu sais, pour se cacher à l'ombre, là, des villes là-dessus, il fait chaud en tabarouette. Faut tenir en compte que tout est en asphalte béton, à la limite, là. Fait que non, des petites pensées pour tous ceux en Alberta, Colombie-Britannique, qui n'ont pas une semaine facile. Parlant de semaine pas très facile, il y en a qui, veut pas, vont affronter la chaleur, même si c'est un peu ailleurs. En fait, aujourd'hui, notre sport, la grosse nouvelle, c'est évidemment le Canadien, parce que le hockey, ça finit bientôt. C'est comme la dernière série. On est en pleine série de la Coupe Stanley. Si le Canadien gagne en 5 matchs, comme j'ai dit, écoutez, tout se peut, ça finirait le 7 juillet. Sinon, on en a encore pour un peu plus que ça. Mais en tout cas, si je me trompe pas, c'est 7 juillet. Mais ailleurs dans le monde, là, il y a un autre gros événement sportif en ce moment. Il y a la Copa América. Mais ce qu'on parle énormément, nous, c'est nos voisins européens, l'Euro, qui est l'Euro 2020. En plus, si je me trompe pas, c'est comme une reprise de l'Euro qui s'est jamais tenu en 2020 à cause de vous le savez quoi. On dirait que je parle de Voldemort en ce moment. Mais non, c'est plein de surprises qui ont frappé aujourd'hui. Tu sais, le Canadien, déjà, c'est une surprise de les voir en finale de la Coupe Stanley. Mais à l'Euro 2020, vous avez bon la France, cette championne mondiale, je pense, la France, qui affronte la Suisse. Puis un gros désastre pour la France. Ça s'est fini 5-4 contre la Suisse, ce petit pays. Tu sais, d'habitude, je les regarde, je fais comme la Suisse. C'est drôle, tu sais, c'est les voisins un peu arrogants de la France avec ben du cash. Puis, mais est-ce qu'ils ont des bons sportifs? Puis apparemment, ils ont des assez bons sportifs pour se débrouiller contre la puissance mondiale du soccer. Même chose pour le Portugal qui s'est fait battre. Le Portugal, c'est contre qui se sont... Hey, j'ai comme un blanc de mémoire, mais le Portugal, qui était aussi dans la même division que la France et l'Allemagne, les trois qui sont... Tu sais, c'était une grosse division là, cette année. L'Allemagne qui affronte l'Angleterre en ce moment. Tu pourras me dire, si tu cherches ça en ce moment, le Portugal contre qui ils ont perdu, mais c'est une grosse défaite. Là. C'est comme si tous les champions, dans le fond, perdraient. Puis si aujourd'hui l'Allemagne perd, toute la division dans laquelle se situait la France, l'Allemagne et le Portugal... éliminé.
Face à une Belgique solide.
C'est ça, la Belgique. On va dire relativement bon, là, qui était une surprise de ces dernières années. Tu sais, il y a 10 ans, je t'aurais pas dit la Belgique, c'est un fou pays de soccer. Oui, je présume qu'ils sont bons, voisins de la France, mais tu sais, je les voyais jamais loin. Puis là, je veux dire, battre le Portugal, pas pire. Il y a l'Italie aussi, sans surprise, qui a remporté son duel puis qui s'en va encore de finale. Donc, il y a des surprises comme il y a des non-surprises. Puis aujourd'hui, c'est là qu'on va voir s'il y a une autre surprise qui pourrait survenir. Personnellement, je vote pour l'Allemagne. Personnellement, je pense que c'est l'Allemagne qui devrait remporter. Mais qui sait, un duel avec l'Angleterre n'est jamais remporté d'avance. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis je pense qu'un autre duel à venir aujourd'hui, ça va être la Suède contre l'Ukraine. La Suède qui devrait relativement l'emporter facilement. Eux qui sont quand même une bonne... C'est la puissance scandinave, j'ai le goût de dire. Alors que le Danemark aussi qui se débrouille bien cette année. Bref, plein de belles surprises, des duels assez inusités. Mais Écoute, les Français qui doivent faire leur deuil aujourd'hui, malheureusement. Puis pas juste pour ça, je sais pas si tu as entendu parler d'un gros désastre français qui n'est pas la défaite contre la Suisse. C'est le méga carambolage style NASCAR qui s'est produit.
Ah, j'allais dire les régionales.
Ah, bon, ça aussi, mais ça...
c'est un gros désastre des régionales.
Ouais, ben,
autant pour le parti de Marine Le Pen que celui de Macron.
C'est ça, surtout pour Marine Le Pen, mais l'abstention, encore une fois, qui a frappé de plein fouet ces élections-là, ça, je veux dire, c'est tellement... moins excitant que le Tour de France en ce moment que je vais comme l'éclipser. C'est... Mais franchement, non, effectivement, on avait déjà parlé du taux d'abstention qui était ridiculement élevé durant les premières, le premier tour en France des régionales. Deuxième tour, apparemment, je pense que c'était comme plus élevé encore.
Je t'avoue que le deuxième tour, je ne sais pas le taux d'abstention. Je sais que le premier tour, taux d'abstention, tu sais, d'habitude, on parle du taux de participation, ouais, ouais. Mais là, on a dit, ah, fuck off, tu sais, il y a tellement pas de monde qu'on va, on va prioriser le taux d'abstention, puis c'était genre 66%.
Ouais, qui était ridiculement élevé, là. Fait c'est... que oui, quand la majorité des gens se déplacent pas pour voter, t'as un bon indicateur que t'intéresses pas tant les gens, puis que c'est peut-être un problème, hein, parce que lorsque t'intéresses pas la population, t'as pas de légitimité, parce que quand c'est 40% de la population qui vote pour toi, hein, tu peux effectivement dire que c'est peut-être pas démocratique. Mais bon, ça, c'est un problème que les Français devront régler, comme le criminel qui s'est enfui du Tour de France. Puis là, je parle d'un criminel parce que ça a créé plein d'émoi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était littéralement, j'appelle ça un carambolage parce que pas d'autre mot, là. Ça s'est produit samedi, si je me trompe pas. Puis c'est une spectatrice qui a voulu photobomb une caméra avec une affiche qui était écrite « Allez grand-papa, allez grand-maman » dans une langue que je ne connais pas. Il souriait à pleines dents à la caméra. Mais évidemment, les autres souriaient pas derrière elle parce que les autres derrière elle, c'était tout le peloton qui venait de partir du Tour de France. Hein. Fait que tout le monde était agglutiné ensemble. Elle a frappé plutôt le cycliste allemand a frappé de plein fouet cette pancarte-là qui avait l'air assez solide, hein, qui a pas bougé puis qui a renversé le coureur ou cycliste allemand qui, lui, a ensuite... fait tomber ses partenaires qui, eux, ont ensuite fait tomber d'autres gens derrière, qui, eux, ont fait ensuite tomber des gens à côté. C'était... Quand je vous parle de NASCAR, là, c'était plus impressionnant que la NASCAR. Moi, je trouve ça plate, la NASCAR. Ça tourne en rond et tout. Puis là, claque, Tour de France, 30 secondes dès le début. T'as le gros carambolage malade. La femme qui avait l'air surprise quand elle s'est fait frapper, mais qui avait l'air bien contente juste avant ça. Fait que... Le tour, c'est quand même fini, hein, parce que t'arrêtes pas ça. Fait que t'as les comme 10 qui ont réussi à passer avant que la madame s'interpose puis qu'elle mette son affiche en plein dans le peloton. Bravo à eux qui ont dû s'en tirer avec un très gros avantage. J'imagine, c'est comme tu pars. Puis à part les 10 premiers, tout le monde derrière se plante. Il y a eu quelques blessés en plus qui pourront pas faire le stage d'après, ce qui est très dommage pour eux. C'est comme tu viens carrément de scraper à cause de ton photobomb la carrière sportive ou en tout cas l'événement sportif d'une vie, hein, pour certains. Il y en a que tu blesses, il y en a que tu fais perdre le tour puis qui auraient eu une chance de gagner. Fait que très, très, très dommage. Mais la suite est assez intéressante. Je pense que cette dame-là va écoper d'une pénalité d'au moins 18 000 euros qu'elle devra payer si elle se fait retrouver. Il y a une enquête qui a été ouverte par les autorités françaises, rien de moins. Et on parle d'une possible... Puis là, j'ai dit une pénalité de 18 000 euros. C'est à la limite, si tu as du cash de côté, tu peux t'en sortir. Attention, elle pourrait aussi écoper d'une peine de prison d'un an. On niaise pas avec le Tour de France. Puis je pense que ça a l'air niaiseux. Est-ce qu'un an de prison pour avoir photobomb, c'est légitime? En même temps, elle vient de scraper, c'est un des plus gros événements sportifs. En même temps, quand tu regardes le Tour de France, moi, j'ai le goût de dire, c'est comme, c'était presque prévisible parce qu'il n'y a aucune sécurité autour. Le Tour de France, c'est un peu comme au golf, puis même encore au golf, tu as des petites bandes des fois sur le côté, là. Mais ils peuvent s'approcher de la route aussi proche que, genre, je pourrais m'approcher de mon frère pendant qu'il joue au jeu vidéo puis donner une claque derrière la tête pour le déconcentrer, là. C'est comme... À la limite, je me demande si vraiment les procédures de sécurité autour de France sont pas un peu laxistes. Puis bon, tu sais, j'aime ça, j'aime cette proximité-là entre athlètes puis les supporters. Mais tu sais qu'il y a des morons, puis elle, cette dame-là, hey, vient de te prouver que c'est un call-in de gros morons. Fait que je suis comme... Ben, c'était prévisible, hein. Il y en a au moins un tata sur les milliers de spectateurs qui va essayer de faire de quoi de tout croche. C'est pas la première fois, hein, dans des événements sportifs qu'il se passe de quoi
de même à cause d'un spectateur, tu sais, que ce soit quelqu'un de niaiseux qui court sur le terrain en NFL, puis tu sais, même à NFL, il y a quand même une grosse sécurité. Là.
Une grosse sécurité, puis au moins, des fois, il court tout nu, là. Fait ouais, au moins, c'est d'autant plus divertissant, mais je viens juste de regarder la vidéo, puisque je l'avais pas vu, puis c'est capoté. Hein.
C'est ridicule.
C'est capoté. Il y a du monde qui se sont fait mal là, là-dedans. Là, je veux dire.
Ben, c'est ça que je te dis, il y en a qui participeront pas au tour d'après, fait que tu viens de gâcher ta chance de gagner le Tour de France, malheureusement, à cause d'une madame qui, t'sais, qui t'a fait bêcher.
Je pense que probablement, le côté logistique, je veux dire, le Tour de France, le nom le dit, là, c'est impossible d'avoir un périmètre de sécurité, je veux dire, tout le long du Tour de France. Puis deux, ben, à savoir si elle mérite de la prison, bonne question, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de peines et d'amendes qui résultent d'être quelqu'un d'irresponsable. C'est ça, je pense que c'est clairement irresponsable slash idiot. Je pense que c'est clairement le cas. Fait que 18 000 euros, regarde, c'est quoi? C'est 27-28 000 $, tu sais, more or less. Regarde, ouais, tu sais, je veux dire, donnez-y. Il y a des gens qui sont entraînés là-dedans. Imagines-tu la quantité de stéroïdes qui est perdue à cause de ça, là, les cyclistes? Qui,
c'est la plus grosse perte financière.
Il y a des gens qui ont investi dans des gros protocoles stéroïdales pour faire cette course-là. Là, c'est très frustrant quand, au final.
Non, mais j'ai une grosse solution, je pense, qui ferait l'affaire de tout le monde, autant des Européens là-bas qui veulent sûrement pas la garder que des fans ici, je veux dire, avec tous les émois que la finale de la Coupe Stanley crée. Écoute, madame, viens-t'en dans les célébrations post-game des Canadiens, tu vas en trouver des morons, tu vas être dans ta famille, des chars de police, il y en a à renverser, des feux d'artifice illégaux, il y en a à péter. Fait que viens-t'en, on va t'accueillir ici, il reste au moins une semaine de hockey à célébrer puis à fêter de manière plus ou moins responsable, dépendamment t'es dans quel groupe. Fait que viens-t'en, écoute, on va t'accueillir, puis normalement ici, les autorités te surveillent pas.
Te surveille pas tant. Ça, voilà. Mais regarde, on va adresser le sujet. Je pense que les gens ils ont eu un gros manque de sport. Je pense que les gens ils ont eu un gros manque de fêter. Puis je pense que c'est vraiment correct de fêter une victoire de façon, je vais dire, un peu irresponsable. T'sais, crier un peu trop fort, boire une coupe de verre de trop, faire un peu des niaiseries. T'sais. Regarde, c'est juste le comportement humain. Puis même si je disais que c'était 100% pas correct, ben ça se ferait pareil. Mais ça reste que là, ça devient vraiment innocent quand tu commences à casser des affaires des autres gens. Là, ou à casser ta propre ville. Qui tu penses qui paye pour ça? Si moi je fais exploser une voiture de police, là, c'est quoi? C'est la police qui paye. Ouais, c'est la police qui paye. Qui tu penses qui paye la police?
Non, ultimement, c'est
tout le monde. Là, voilà. C'est d'autant plus quand tu vas casser, je sais pas, un magasin de quelqu'un. T'sais, moi j'en ai un commerce. Puis si je me pointe un jour que mon commerce est pété, je suis loin. C'est dans mes poches pour moi.
Moi je fais juste la définition de célébration, là, c'est quelque chose de joyeux dans lequel on peut se retrouver puis, entre personnes puis partager cette joie-là collective d'un événement souvent sportif ici. Mais la célébration, c'est pas censé blesser, détruire ou ruiner la vie des gens. Quand tu vois les commerçants, puis c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est comme « wow, belle ambiance, t'sais, Montréal qui renaît un peu de ses cendres après la pandémie ». Puis là, t'as genre tous les commerçants qui barricadent leur vitrine, c'est super laid déjà, first, mais le fait qu'il n'y a aucune confiance, t'sais, le fait que on le sait qu'il va se passer de la merde, fait qu'on va barricader nos fenêtres, t'sais, c'est comme wow, réflexe-là.
C'est pas très élogieux.
Non, c'est pas très élogieux, ça fait passer la ville pour une ville un peu comme criminelle à la limite, là, t'sais, puis alors que c'est une célébration de même pas Coupe Stanley, c'est ça qui est encore plus. Moi, je me suis dit, imagine ils perdent la Coupe Stanley. Le monde qui a tout pété ça, genre, t'as fait ça pour absolument rien, dans le fond, là, tu sais, c'est comme, tu sais, là, attends au moins un peu avant, puis là, c'est comme je suis en train de dire, attends de péter des choses, c'est pas ça que je
pète
dis,
pète la
là.
Ville quand on gagne la Coupe Stanley.
C'est ça, tu sais, c'est comme, voyons.
Non, t'sais, mais ceci étant dit, je pense, par contre, puis ça, c'est la police qui le dit elle-même, je pense que c'est quelques pommes pourrites à travers beaucoup de gens qui célèbrent de façon super correcte, là. Fait que, regarde, moi, je vais adresser un sujet qu'on a quand même beaucoup parlé cette semaine. Je vais faire ça relativement rapidement. L'effondrement qu'il y a eu dans une ville qui est juste au nord de Miami, la ville de Surfside. Il y a un gros immeuble de 12 étages qui souffrait de dommages structurels majeurs selon un rapport qui avait été fait en 2018. Pour ceux qui ont vu la vidéo, là, tu regardes ça et tu es là, mon Dieu Seigneur, je peux pas croire qu'il y a du monde qui ont survécu à ça ou du monde qui sont pris là-dedans. C'est pas l'immeuble au complet qui tombe. C'est 55 des, je crois, more or less 129 appartements qui s'effondrent. Puis là, ben, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on fait des recherches. T'sais, là, en date d'hier, il y avait 9 morts confirmés, puis il y avait quelque chose comme 100...
C'était rendu à 11 morts, 11
morts. Il y avait quelque chose comme 150 disparus. Il y a 4 Canadiens à travers ça. Puis tu sais, quand... quand tu penses à ça, la logistique derrière tout ça, là, c'est extrêmement complexe. T'sais, c'est-à-dire que là, présentement, on alterne entre des recherches acoustiques puis on alterne entre de l'équipement lourd. Parce que tu peux pas juste te pointer avec une pelle mécanique puis tasser les affaires. Là. Si tu penses qu'il y a du monde en dessous, il faut que tu fasses des recherches acoustiques, voir, un, si ça résonne, voir si c'est pas des battements de cœur et ou autre. Puis tu sais, est-ce qu'il y a des poches d'air qui sont formées puis il y a des gens qui survivent dans ces poches d'air-là? Puis ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, quand tu penses qu'un gros immeuble comme ça s'effondre, bien, de façon un peu macabre, les gens qui restent en dedans, des fois, sont vraiment pas identifiables. Fait que là, t'as des centres, t'as un centre qui s'est formé où est-ce que les familles donnent du sang pour faire un test d'ADN. Pour quand ils retrouvent quelqu'un, ils peuvent l'identifier à l'aide d'un test d'ADN. C'est vrai que t'es tout beau et intact là-dedans. Là. Puis ce qu'ils ont fait, puis c'est super complexe, c'est qu'ils ont fait une tranchée autour pour essayer de voir un peu mieux à l'intérieur des débris, voir s'il n'y avait pas des gens qui restaient. Il y a des équipes, il y a une équipe du Mexique qui est venue, une équipe d'Israël qui est venue. Ils sont peut-être un peu plus habitués avec des effondrements, plus habitués avec des
Les tremblements de terre au Mexique, c'est quelque chose qui est assez fréquent, plus fréquent qu'aux États-Unis. Fait que ils ont cette habitude-là de devoir pallier à ce déficit.
Fait que là, t'as ces chercheurs-là en ce moment. Il y a du monde qui vont devoir rendre des comptes. Tu as un complexe similaire qui a été construit la même année par la même compagnie qui est située à quelques kilomètres. Imagine, tu habites là. Tu es là, hein? Puis là, ben, tu sais, qu'est-ce qui a causé ça? Évidemment, il va y avoir une enquête, il va y avoir des poursuites. Il y a déjà même une poursuite qui a été déposée au nom des morts, entre guillemets. Puis, tu sais, là, est-ce que c'est la conception de la construction? Est-ce que c'est la construction elle-même? Est-ce que c'est l'entretien? Est-ce que c'est les matériaux de construction qui ont été utilisés? Est-ce que c'est ces quatre facteurs-là? Il y a un gars qui s'est rendu là, un expert en, je veux dire, bâtiment effondré, qui était le même expert qui s'était rendu au site des attentats du 11 septembre 2001, puis que lui est allé voir ça, puis il a dit, garde, parmi les facteurs que je viens de nommer, les quatre sont là. La conception, les matériaux, la construction, puis l'entretien.
Puis il aurait pu avoir au moins un certain travail de consolidation, parce que ce qui était ressorti déjà assez tôt, c'est qu'il y avait eu des rapports sur ce même immeuble-là en 2018, comme ouais. Quoi l'entretien était vraiment, puis je vais réutiliser ce mot-là que j'ai utilisé tantôt, mais l'axis, justement, qu'on laissait un peu les choses aller, puis que l'immeuble était vraiment pas en bon état, qu'on aurait pu pallier à ces déficits-là depuis un certain temps. Et là, ça faisait déjà 3 ans et on n'avait rien fait. Puis c'est là que je trouve ça un peu dommage. Tu sais, des fois, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais les États-Unis, c'est un peu le tiers-monde de l'Occident, dans le sens où il y a tellement d'endroits où on pense, tu sais, c'est comme, je veux dire, les immeubles là-bas, ça doit être super bien fait. Je veux dire, il n'y a pas de favela, tu sais, des affaires de même. Les buildings sont en bon état et tout. Non, t'en as des buildings qui sont super, comme laissés de côté, Hein? Puis ça, c'est l'affaire. C'est comme il y a un rapport qui te dit que ton immeuble n'est pas en bon état. C'est qu'il y a des règlements, il y a des lois là-dessus sur l'entretien des immeubles. Puis c'est pas respecté. Puis c'est au vu et su de tout. Là, c'est comme ça existe. On te l'a déjà dit. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 années-là? Moi, je pense que s'il y a une poursuite à faire, je pense que les propriétaires vont pas s'en sortir, hein, malheureusement, parce que le fait qu'il y ait déjà eu un rapport là-dessus, c'est comme tu l'avais ton avertissement. Tu l'avais tes règlements à suivre, tu l'avais tes lois puis tes recommandations. C'est un peu de ta faute, ça s'est écroulé. Je dis pas que c'est, tu sais, je dis pas que c'est le propriétaire qui a construit l'immeuble puis qui a décidé des matériaux et tout, mais il y a une grosse part de responsabilité sur les autorités déjà qui ont pas fait de suivi en 3 ans. Tu sais, c'est comme tu sais que l'immeuble il est en pas bon état puis qu'il risque de s'écrouler. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, à pas checker chaque année si ça se fait. Puis le propriétaire qui a rien fait pendant ces 3 années-là puis qui a fait attends. Puis c'est ça, je pense qu'il y a aussi, il sait qu'ils viendront pas checker, fait que lui, il fait rien, il veut sauver de l'argent. Puis c'est un peu, tu sais, cette mentalité qui est devenue macabre, à la limite, j'allais dire cheap, mais c'est plus cheap à ce moment-là, là, c'est macabre parce que tu préfères sauver de l'argent au fait de rendre les gens dans une situation sécuritaire. Tu sais, c'est assez triste de voir ça de ce point de vue-là. J'espère que c'était pas la mentalité du propriétaire puis que je suis comme une erreur, puis même à ça, c'est triste, là, mais si c'était vraiment le fait qu'il voulait pas rénover puis que c'était pour sauver de l'argent puis tout, là, puis que ça mène à ça, c'est catastrophique. Puis je pense qu'il y a probablement pas juste Surfside, mais tout l'État de Floride qui risque de revoir un peu ses règlements concernant l'entretien des immeubles.
Absolument. Je sais que tous les bâtiments de plus de 30 ans qui font face à la mer à cause de ce qui est arrivé là maintenant, ils vont vouloir plus checker ça. Puis c'est la question qui se pose un peu comme tu l'as mentionné, à savoir, bon, il y a eu un rapport en 2018, mais ça sert à quoi un rapport s'il n'y a rien qui se fait? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont tourné un peu la tête, je veux dire, contre quelconque avantage, je veux dire, par rapport à ça? Dirais, hey, moi, j'ai un rapport ici qui dit que tu dois faire des rénovations. Puis là, l'autre gars, il est là, ben, check, tu sais, si moi, je t'offre ça, puis regarde, on fait ça dans 2 ans, finalement, parce que ça, tu sais. Je veux dire, la question se pose, ça sert à quoi d'avoir des rapports si les rapports, c'est juste pour les mettre sur une tablette puis absolument rien faire? On s'en fout, là, tu sais.
On dirait une répétition de tout ce qui se fait au Québec, là, avec les rapports concernant
les rapports d'enquête qui se font, là, sur. Enfin bref, à suivre, regarde, on va venir au courant la semaine prochaine, assurément, tu sais. Puis malheureusement, tu sais, vous comprenez bien que c'est une course contre la montre. Vous comprenez bien que plus les jours avancent, les 150 quais disparus, à moins d'avoir une méchante grosse poche d'air, tu sais, il faudrait que tu sois chanceux d'être tombé dans une poche d'air finie, là, tu sais, à un moment donné, tu l'as peut-être avalé l'air, là, tu sais, c'est pas infini, si c'est bien hermétique, là.
Si la personne est en manque de nourriture. Nourriture, si t'es pas blessé. L'eau aussi, si t'es pas blessé.
Sois chanceux pour être tombé en deux colonnes, puis à côté d'un frigidaire.
C'est ça. Je pense que ça serait le scénario survie idéal. Mais malheureusement, c'est ça. Je pense qu'en ce moment, tous les rescuers, j'ai pas le mot en français, là, mais tous les premiers répondants qui sont sur place là, cherchent plus des corps que des survivants à ce moment-là. C'est un peu triste, mais on est rendu au stade de plus trouver ces personnes disparues puis d'identifier les corps plus que de trouver des survivants, malheureusement. Sur cette note un peu plus triste, on va laisser le temps de décanter un peu. On va passer une courte pause publicitaire puis on vous revient après avec un flash info pour changer les idées un peu.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter locale.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
The following program is disturbing. Cash Crowd.
Mardi 20h. Chiz 94.3.
D'écoute!
Ah, Sébastien, re-bienvenue à cette deuxième moitié. J'espère que tu es prêt pour continuer chez le voisin avec un gros flash info. Je pense qu'on s'est gardé pas mal de nouvelles pour la deuxième moitié. Puis j'aimerais ça commencer bien direct avec la pire dictature mondiale, le système le plus autoritaire qui n'existe pas, puis surtout les méthodes d'emprisonnement les plus rudes au monde. Je te parle du Canada, Sébastien. C'est tout du moins ce que le républicain du Missouri, Josh Hawley, qui est un sénateur, lui, accuse le Canada. Il parle de camps de concentration dignes de la Chine. Donc, tu parles du Xinjiang, de ces musulmans qui sont arrêtés arbitrairement, enlevés à leur famille, placés en camp de rééducation pour simplement faire valoir leurs droits religieux d'être musulmans, en fait, de pouvoir faire leurs prières à Allah, puis de, tu sais, je veux dire, vivre comme tout bon musulman le ferait. Ici, les chrétiens seraient aussi bafoués que les musulmans en Chine. Je veux dire, c'est très, très grave, Sébastien, parce qu'après des arrestations de pasteurs en Alberta qui ne suivaient pas les règles sanitaires, en organisant des petites messes à visage découvert avec trop de gens, et ainsi de suite, ces arrestations-là prouvent que le Canada est aussi rude que la Chine en matière de liberté religieuse, que ces musulmans en Chine souffrent autant que les chrétiens au Canada, et ils demandent une enquête internationale pour voir si justement la liberté religieuse au Canada est respectée. Fait que j'ai trouvé ce héros des temps modernes assez intéressant pour en parler cette semaine, puis assez intéressant pour te dire que d'un call-in d'épais, je veux dire, puis c'est très, très, très insultant parce que là, j'ai l'air un peu arrogant, mais franchement, ils comparent les chrétiens au Canada aux musulmans qui se font probablement exécuter en Chine, qui se font mettre dans des vrais camps de concentration par milliers, peut-être par millions. Ici, il y a une arrestation de quelques pasteurs. Et directement, on parle d'atteinte à la liberté religieuse dans un des pays qui est le plus ouvert au monde, je pense que le Canada. Puis, tu sais, les Américains, en termes de liberté religieuse, ils n'ont pas trop de leçons à donner avec l'ère Trump qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps, avec les pays musulmans hein, qui étaient rayés de la carte en termes de tourisme à la limite, puis surtout d'immigration. T'sais, on se rappelle le Soudan qui a été enlevé à la toute fin là, parce que ben, c'était un pays dangereux. Puis, étonnamment, tous les pays qui étaient marqués sur la carte, à part genre Cuba, parce que Cuba était musulman. Fait que j'étais comme, ah ben oui, mais monsieur Josh Hawley qui met sur la table un dossier très, très, très alarmant, c'est-à-dire la liberté religieuse des chrétiens au Canada. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai dirais de rester chez lui. Pff, voilà. Désolé, c'est rare que je prenne une position aussi ferme que ça, mais là, Josh Hawley, règle tes problèmes au Missouri avant de régler ceux en Alberta, parce que franchement, mon petit monsieur, je suis pas sûr que les États-Unis ont des leçons à donner en termes de liberté religieuse, surtout lorsqu'on sait que c'est un Américain qui la donne. Puis surtout, en termes de respect, lorsqu'il compare ça à la Chine, j'ai le goût de dire, calme-toi, on a nos propres dossiers assez graves à régler, c'est-à-dire l'affaire autochtone qui ressemble déjà plus au dossier de la Chine, dans une échelle déjà beaucoup moins grande, puis qui n'était pas sous une dictature. Fait que, écoute, très hâte de le rencontrer pour qu'il me donne peut-être sa manière de penser, ce Josh Hawley-là, que je ne connaissais pas. Hein. Il y a une manière assez intéressante de se faire connaître sur la place publique. Voilà. Puis l'article était très court, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, t'as pas d'argument. Deuxièmement, t'as juste l'air ridicule. Fait que ça m'étonne pas que cet article-là qui a été relayé par la presse canadienne dans Radio-Canada puis un peu ailleurs dans des médias francophones d'ici n'ait pas de substance parce que lui-même n'avait pas de substance un peu pour appuyer ça. Écoute, s'il y a enquête, j'ai bien le goût de rire, là, très franchement.
C'est
là.
Depuis quand est-ce qu'un sénateur américain est supposé donner des leçons au Canada, je veux dire, qui se retourne vers lui-même ou qui regarde les États-Unis dans le miroir? Là, je pense que en termes de désastres humanitaires, sont assurément pires que nous. Mais regarde, vu que tu as ouvert la porte, moi, je vais pas partir dans des grosses discussions là-dessus, mais tu sais, je pense que ça vaut quand même la peine qu'on en parle un petit peu. Justin Trudeau, il a dit vendredi passé qu'il aimerait bien que le pape se rende au Canada, puis s'excuse au nom de l'Église pour les pensionnats qui ont été administrés en grande partie par les communautés religieuses, notamment comme les Oblats qui géraient 48 des 139 pensionnats. D'ailleurs, les Oblats ont mentionné en fin de semaine dernière, suite à la découverte des plus récentes de 751 sépultures à Marival en Saskatchewan, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir leurs archives pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé récemment. Est-ce qu'ils ouvrent leur archive parce que indirectement ils savaient bien que d'une manière ou d'une autre, légalement parlant, ils allaient être obligés de le faire, puis ils se sont dit « Hey, on va les ouvrir avant qu'on ait besoin de... »
C'est ça, même s'ils étaient forcés, c'est la bonne idée, c'est-à-dire que tu collabores avant même qu'on te le demande, fait qu'au moins il y a ça de fait. S'il y a, tu sais, moi je trouverais ça très très louche, s'ils font « Ben, tant qu'on nous le demande pas, on n'ouvre rien. » Là, je serais comme « T'as quelque chose à cacher, là. T'as quelque chose à cacher. »
Exact. Puis tu sais, le pensionnat de Marival, il a été opéré en Saskatchewan de 1899 jusqu'à 1997. Fait que ça fait presque un total de 1000 qu'on trouve en à peu près 10 jours. 215 à Kamloops, puis 751. C'est sûr qu'il y a une marge d'erreur, par contre. Il y a une marge d'erreur parce que de la manière que cette technologie-là marche pour chercher des sépultures, c'est qu'il envoie évidemment une certaine forme d'onde slash lagère dans le sol. Fait que ça peut qu'il y ait des hits, ce qu'on appelle, qui soient erronés. Donc, il y a une marge d'erreur. Donc, le chiffre que je dis n'est pas forcément le chiffre final. Puis, rappelle que quand il y avait eu la découverte à Kamloops, en Colombie-Britannique, bien, le pape il avait adressé le sujet. Il avait dit qu'on devrait effectivement faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais il avait coupé un petit peu court avec des excuses formelles. Puis moi, une question je suis un gars curieux, puis c'est sûr que c'est une question qui était un petit peu macabre, mais je serais curieux que la lumière soit faite sur, puis là, je vais dire enfants, parce que la plupart, c'est des enfants, même si on a trouvé des adultes. Comment est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts de quoi? Est-ce que c'est une combinaison de maladies comme la tuberculose, de la sous-alimentation et des mauvais traitements? Est-ce qu'il y a eu des meurtres à travers ça? C'est sûr que ces découvertes-là, ben, ça arrive dans le mois qui précède la fête du Canada. Est-ce que ça a terni un petit peu cette fête du Canada? Je veux dire, tu sais...
Ben, il y a un gros appel à ne pas fêter la fête du Canada. Puis effectivement, même moi qui trouve ça très macabre, puis qui... Hey, je fête même pas la fête du Canada. Là. Je suis un genre de gros Québécois, à limite, tu sais, cliché, qui fête juste la Saint-Jean-Baptiste puis qui veut rien savoir de la fête du Canada. C'est la fête du déménagement, le 1er juillet. Mais non, tu sais, je me dis... c'est comme super symbolique, mais on dirait que ça détruit un peu le sens. Moi, la fête du Canada, puis c'est peut-être pas super populaire comme opinion, mais la fête du Canada, à la limite, c'est pour se rassembler. T'sais, c'est le moment de justement commémorer et tout. Fait que tu peux faire tout ça, puis vivre ensemble. Le fait que, veux pas, t'es Canadien, puis que t'as les mêmes défis à relever, t'as les mêmes joies. T'sais, quand le Canadien est là, c'est quand même une équipe canadienne qui est en finale de la Coupe Stanley. Tu peux célébrer ça comme un Canadien. Le fait que, t'sais, on a vécu la pandémie ensemble, tu peux fêter ça comme un Canadien. Le fait que t'es content que ton voisin, le président, c'est Joe Biden au lieu de Trump, tu fêtes ça comme Canadien. T'es fâché que ça soit Joe Biden au lieu de Trump, tu peux fêter ça comme Canadien. T'sais, il y a genre plein d'affaires qui nous réunissent comme ça. Les Jeux olympiques qui arrivent, t'sais, c'est, on va encore se regrouper, puis fêter la même équipe, célébrer les mêmes athlètes. Puis la fête du Canada, je sais pas si c'est un moment que, tu sais, à laisser de côté, à tasser, puis à dire, ben, on célébrera rien. On peut-tu, tu sais, dans ma tête, on peut-tu célébrer le fait qu'on est Canadien puis qu'on passe ce moment-là, tu sais, en deuil aussi ensemble, mais qu'on a aussi un avenir à voir ensemble, puis se dire, tu sais, dans l'avenir, ça serait nice que, tu sais, autochtones et Canadiens en général, tu sais, se réconcilient, puis qu'on puisse fêter ça vraiment ensemble, d'une même, comme en tant que même nation. Bon, c'est très... Hey, on dirait que je suis en train de parler d'une utopie, là. Ça arrivera presque jamais.
Déchire ton chandail, man.
Ouais, c'est ça que... Ah, gros chandail. Puis en dessous, j'ai une fleur du Canada, une feuille du Canada dessinée sur le chest. Mais non, c'est comme... Puis même, tu sais, tu me vois hésiter, là, je comprends l'idée derrière, puis on dirait que je suis pas contre le fait, c'est de faire une commémoration puis d'annuler un peu cette fête du Canada-là, mais en même temps, c'est contre-productif parce que c'est le moment où les Canadiens se rassemblent, puis ceux qui fêtent le Canada se rassemblent, puis tu sais, tu célèbres un peu le futur que t'as ensemble, mais tu te rappelles aussi du passé que t'as avec ces mêmes personnes-là. Fait que c'est très symbolique. Comment tu interprètes le symbole, c'est ça qui va changer d'une personne à l'autre, puis c'est ça qui va faire dire est-ce qu'on devrait l'annuler ou pas. Puis même moi, je suis plus du genre, on devrait pas l'annuler, mais j'ai mes réserves. Puis c'est là où je suis comme, il y a rien... Tu sais, c'est un débat quasi philosophique, là. C'est idéologique, symbolique, il n'y a pas d'argument. Ouais. Yeah. Tu peux pas sortir des chiffres pour appuyer ça. Même si tu me dis 751 morts à Marival, moi je fais genre, ben justement, ça, moi je mettrais genre plein d'argent pour résoudre l'enquête et tout. Est-ce qu'on devrait tout d'un coup arrêter d'être Canadiens ensemble? Puis c'est comme un peu briser ce lien-là qui nous unit. T'sais. Au contraire, c'est parce que ces Autochtones-là sont Canadiens que j'ai le goût genre de les aider. Ils n'ont jamais été des ennemis, au contraire. J'ai le goût genre de les voir avec nous.
Ils sont surtout probablement plus Canadiens que nous. Là.
C'est ça.
Mais tu sais, garde, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a effectivement un dialogue. Je pense qu'il y a un dialogue qu'il faut que le ministre des Affaires autochtones adresse la question. Puis je veux dire, il faut qu'il y ait des solutions qui se trouvent. Je pense que c'est important de reconnaître ce qui s'est passé. Je pense que c'est important que les investigations se poursuivent parce qu'on n'a pas fini, là. On n'a vraiment pas fini. On vient de commencer à fouiller, là, tu sais, puis on va se rendre compte que, tu sais, je sais pas dans quelle mesure, parce que comme j'ai mentionné, je pense, il y a deux semaines, je ne connais pas la définition en termes de droit international de c'est quoi un génocide. Mais chose certaine, la question de génocide culturel se pose, parce que c'était ça qu'on voulait faire. On voulait prendre les Autochtones, on voulait séparer les enfants de leur famille, les mettre dans les pensionnats, pour effacer l'Indien dans l'Indien et le remplacer par ce que nous, on avait comme perception de ce qu'un citoyen devait être et la manière d'agir qui devait être conséquente à ce qu'on pensait. Je veux dire, à partir de là, tu sais, des affaires comme... Tu sais, c'est très dur, autant comme tu l'as mentionné, philosophique, éthique. Tu sais, tout le débat par rapport au passé puis au présent, moi, je trouve ça toujours super, super compliqué. Tu sais, comme quand il y avait du déboulonnage de statues, d'hommes, de racistes, de la Confédération. Tu sais, c'est toujours sensible, c'est toujours... est-ce que déboulonner une statue va effacer le passé? Non. Est-ce que la statue qui est là présentement peut causer préjudice à certaines communautés qui ont été persécutées par ce personnage-là? Oui. Je veux dire, est-ce que, juste ça comme ça, est-ce qu'on serait pas mieux de l'expliquer pour mieux le comprendre? Puis je veux dire, tu sais, ça fait du bien la vérité des fois, là. Ça fait du bien de, genre, tu sais, pas se cacher derrière « Ah oh, ouais, mais ça, puis regarde, c'est ça qui est arrivé. » Puis l'expliquer, le comprendre, puis essayer de justement d'apprendre de ça pour dire « Regarde, on a un passé terrible, on est passé par là, c'est une réalité, mais maintenant, je veux dire, on fait face à cette réalité-là, puis on essaye de rendre les choses meilleures à partir de là. » Enfin bref, c'est à suivre comme dossier, à savoir si le pape va venir s'excuser au nom de l'Église romaine en sol canadien. Honnêtement, j'en doute. Je sais que c'était une demande qui a été formulée à la base par les peuples autochtones du Canada. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut attribuer tout cela, tout ce mal aux communautés religieuses? Votre réponse est aussi bonne que la mienne. Il y avait 139 pensionnats à travers le Canada. Il y en avait, je ne saurais dire, mais moins de 10 au Québec. Puis je sais qu'il y en avait un certain nombre là-dedans qui étaient gérés par les communautés religieuses. Enfin bref.
Voilà. Puis là, je pense qu'on peut changer. C'est lourd, mais je pense que c'est aussi important qu'on en parle parce que cette nouvelle-là, veut pas, va un peu cadrer l'image qu'ont les autres pays du Canada aussi, parce que on l'avait dit, la nouvelle, quand elle était arrivée la première fois, faisait l'objet d'articles hein, à l'international, que ce soit à Al Jazeera ou ailleurs. Puis là, à cause des 751 nouveaux cas, Al Jazeera en parle toujours. Il y a d'autres articles
France
internationaux.
24, on a parlé,
voilà.
Je l'ai vu passer. Fait,
faut pas non plus voiler la face puis se dire que c'est juste une affaire nationale. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça à l'international. Donc, c'est très, très, très important d'en parler juste pour garder cette crédibilité-là en tant que pays. Hein, tu sais, parce que si le monde nous regarde puis on fait semblant de rien, on va avoir l'air des taouins. Il faut au moins, bon, acknowledge, comme on dit en anglais, mais rendre compte de la situation. Après, ce qu'on va faire aussi, ça reste du ressort des Canadiens. Mais il ne faut pas se voiler la face, comme j'ai dit. Tout le monde regarde. Donc, il y a aussi cette crédibilité-là qu'il faut garder en tête. Mais bref, parlant de crédibilité à l'international, je vais parler de quelqu'un qui en a énormément, Kim Jong-un. C'est ma petite nouvelle rapide de la journée. Mais est-ce que tu l'as vu, notre cher Kim Jong-un, ces derniers temps?
Perdu non, du mais poids, je monsieur? Présume qu'il a encore sa belle coupe de cheveux et ses belles grosses joues rondes.
Oui, mais c'est ça que sa coupe de cheveux, oui, ses belles grosses joues rondes. Un peu moins. Ouais. Notre Kim Jong-un qui revient à sa shape un peu. Je sais pas si tu te rappelles du début qui était en shape relativement normale, qui a toujours eu un visage rond, mais tu sais, qui n'était pas obèse. Sauf que ces derniers temps, il était carrément considéré obèse, hein, Kim Jong-un. Mais bon, pas en Corée du Nord. Je vais vous le dire tout de suite, c'est par les experts internationaux qui jugent. T'es capable d'évaluer le poids d'une personne seulement avec la taille puis les images et ainsi de suite.
Quand même, mais assez bref, petit, je pense. Hein.
C'est ça, il est petit puis il est gros. Fait que déjà, ça l'avantageait pas.
Et dans ça, on dit un petit gros?
C'était un petit gros, notre Kim Jong-un. Puis il pesait un peu plus de 300 livres, hey, pareil. Hein.
300
quand je te
livres?
Dis, ouais, il était un petit gros ou un petit obèse.
Un petit très gros.
Puis là, il aurait perdu au moins peut-être 40 livres dans les derniers temps.
Kim Jong-un s'est fait briser le cœur.
Peut-être une peine d'amour. Puis, devine c'est qui est autant en peine d'amour que Kim Jong-un, son peuple. Puis c'est rare. Puis je trouvais ça l'anecdote assez intéressante parce que non seulement notre Kim national a perdu du poids puis il a l'air plus en forme, mais les gens en Corée du Nord s'inquiètent parce qu'ils voient perdre du poids puis ils font « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? » Et s'inquiètent tellement que pour une des rares fois, la télé nationale nord-coréenne a permis un commentaire d'un citoyen qui s'inquiétait pour la santé. Puis c'est drôle parce que son identité est restée anonyme, donc je présume que tu sais, on veut pas non plus.
Je présume qu'il reste anonyme parce qu'il est disparu maintenant.
Ouais, peut-être ça aussi. On savait plus c'était qui, tu sais, il existe plus. Mais bref, la télé d'État qui d'habitude ne permet aucun commentaire de la population a permis d'inclure des commentaires de citoyens inquiets. Et on dit que les gens en avaient les larmes aux yeux de voir Kim Jong-un perdre autant de poids. Moi au contraire, je serais genre « Kim, let's go! »
Let's go!
Tu perds du poids, ouais, quel workout tu cœur, suis? Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir son programme nutritionnel puis son programme sportif qu'il a peut-être eu dans les derniers temps. Est-ce que c'est aussi par rapport à certaines chirurgies, peut-être? Est-ce que c'est le stress en ce moment qui lui fait perdre du poids? Parce qu'en ce moment, c'est on dirait que tout se passe très vite en Corée du Nord, mais c'est une des rares fois où Kim Jong-un a aussi rendu compte d'une situation économique difficile, d'une situation alimentaire difficile dans le pays. D'habitude, dire la Corée du Nord aime se péter les bretelles puis tout va bien, puis surtout le dire à sa population pour les rassurer. Puis là, pour une des rares fois, Kim Jong-un est allé devant son parti a fait un gros speech sur le fait que va falloir se reprendre en main l'économie post-pandémie qui en a pris pour son argent. La situation alimentaire, qu'on dit toujours, ben, y a-t-il une famine en Corée du Nord? On pense qu'il y a une famine. Puis là, Kim Jong-un, qui se place devant son parti puis qui dit, on est serré en ce moment niveau bouffe, ça se fait poser des questions. Puis c'est là que je me dis, est-ce qu'il est stressé au point de ne plus manger?
Il n'y a peut-être plus assez de bouffe, Kim Jong-un.
Ah ben, c'est ça, c'est tellement grave que même Kim Jong-un doit serrer la ceinture. Peut-être, mais bref, la télé d'État qui trouve une nouvelle liberté dans cette perte de poids et qui permet à ses citoyens de s'exprimer pour montrer à Kim Jong-un à quel point ils aimaient leur petit gros.
Moi, je pense qu'il a genre 35 ans à peu près, tu sais, son âge est inconnu, là, comme les médias disent toujours.
Mais
je
pense
qu'il est après 35 ans. Puis le fait qu'il soit gras, ben, ça faisait qu'il n'y avait vraiment aucune ride. Ta peau peut s'étirer, hein, Chris, quand t'es... Fait que le plus t'es gras, ben, ça peut être un truc contre les rides. Soyez gras. En tout cas, regarde, Kim, on va vous tenir au courant de son poids corporel. Très possiblement, puis là, je sais, je parle des fois à travers mon chapeau, je sais que c'est un régulier de l'émission et qu'il nous écoute au moins 3 fois par mois. Puis je pense que peut-être... il aurait entendu parler d'un potentiel combat de boxe que Max aurait évoqué entre les leaders internationaux. Fait que c'est sûr que quand t'es en boxe puis tu te bats dans une haute catégorie de poids, ben tu sais, lui, il est pas grand. Fait que là, ben tu sais, s'il se bat contre un grand, contre genre Erdogan, ben là, tu sais, ça pourrait jouer contre lui une grande portée.
Non, mais son centre de gravité est bas, donc il reste au sol puis il ne bouge pas. Puis surtout, moi, je me dis, par contre, à cause de son poids, est-ce qu'il serait pas mieux de skipper la boxe puis d'aller directement au match de sumo.
Ah, ben oui, au Japon.
Peut-être, ouais, c'est ça.
Je sais pas c'est quoi la dehors de mauvaise relation, hein, Japon.
Ben c'est ça, ça réglerait bien des affaires. Imagine s'ils règlent tous leurs inconvenus diplomatiques via des matchs de sumo dans lesquels Kim Jong-un participe lui-même personnellement. Je serais très intéressé. Je peux-tu parler d'un autre match de boxe rapide qui n'est pas du tout un match de boxe, mais qui est un genre de gros bras de fer entre à la Russie et l'Occident, mais cette fois, c'est contre les Britanniques. Il y a un navire britannique qui s'est aventuré en mer de Crimée. Elle arrive, puis la Russie dit, ben, on a tiré des coups de feu pour prévenir le navire qui était dans nos eaux territoriales, et on a même largué des bombes devant lui pour le faire changer de trajectoire. Les Britanniques ils ont dit, ça s'est jamais passé. Je suis, ben, voyons donc, la Russie dit ça random, mais ils disent qu'il y avait un navire dans l'eau. Dans ces eaux territoriales-là, qui ne sont pas considérées. Puis c'est là, hein, toute la nuance diplomatique. La Grande-Bretagne ne considère pas que c'est les eaux territoriales russes, parce qu'en Crimée, ben, théoriquement, c'est ukrainien. C'est ukrainien reconnu, en tout cas, par l'Occident. La Russie qui a annexé la Crimée depuis 2014, si je ne me trompe pas, qui est reconnue par la Russie puis quelques-uns de ses alliés, eux disent que c'est nos eaux territoriales. L'Occident dit que ça n'a pas rapport, on a le droit de passer là parce que c'est encore à l'Ukraine, mais vous savez que toute l'armée russe est stationnée en Crimée, littéralement, presque.
Quelqu'un mal en ça, en tout cas. Là.
Ouais, mais moi, j'ai l'impression, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que la Russie ment pas là. Ça m'étonnerait pas, hein, qu'ils aient tiré des coups de feu. Je veux dire, ils ont tellement un gâchette facile, puis ils déplacent tellement de troupes que, genre, le fait qu'ils aient tiré, ça m'aurait pas étonné. Mais le plus étonnant, c'est que suite à cette mésaventure militaire-là et diplomatique-là, il y a des documents classifiés de la défense britannique qui ont été retrouvés dans un arrêt d'autobus. Imagine-toi donc. Fait que je pense qu'ils ont été rendus. C'était quand même un document classifié de 50 pages. Fait que tu as 50 pages sur l'armée britannique, sur ce qui s'est passé en mer de Crimée, qui attendait sur un banc d'arrêt d'autobus. Qui a été retrouvé par.
C'est quand même curieux que quelqu'un qui ait accès à ces documents-là prenne l'autobus.
Ouais, ben. Aussi, ben en même temps, je me dis, ben tant mieux, c'est une virée écologique pour le parti.
Absolument.
Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces documents-là directement sur lui? Bonne question. Mais c'est ça, c'est plus le fait qu'il prenne l'autobus, ce membre du Parti travailliste, je pense, là, ça m'étonne pas. Le fait qu'il prenne l'autobus avec des documents classifiés...
Puis qu'il lise à l'arrêt de bus.
C'est ça. T'sais, qu'est-ce que ça faisait là? Pas dans une mallette super barricadée, fermée, genre, bonne question. On n'a pas reçu de nouvelles de ce qu'il y avait là-dedans, mais peut-être qu'il y avait la réponse. C'est ça. Hey, moi, si j'avais trouvé ça, là, je pense que je t'aurais checké un coup d'œil. Je t'aurais fait un genre de mégascope de la mort.
WikiLeaks direct.
Ouais, c'est ça. Je t'aurais confirmé c'est qui a tiré, c'est qui a pas tiré. Mais là, finalement, la personne qui l'a trouvé, ben, était un bon citoyen, malheureusement, contrairement à moi. Et
c'est bon
a rendu
citoyen,
le document.
Là,
ça, ou elle s'est fait dire de rien dire. un des deux, parce que quand tu trouves des documents classifiés de 50 pages, peut-être qu'ils vont te dire, ils vont fortement te recommander de ne pas t'ouvrir la bouche. Peut-être que ça aussi, là...
Moi, je regarde 1 000$ par page. 1 000$ par page, je dis rien. 50 000.
Tu penses que tu aurais ce levier de négociation-là avec le gouvernement britannique? Peut-être. Peut-être.
Ben, le gouvernement britannique, je pense pas qu'ils sont connus pour leurs mesures très draconiennes. Je vois pas comment ils pourraient me faire taire, à moins qu'ils aient déjà des affaires sur moi, là, ou bien qu'ils fassent une grosse enquête. Là. Regarde, il reste 2 minutes. Je vais faire une énorme et longue phrase pour essayer de boucler la boucle. Donald Trump aux États-Unis, qui a lancé la campagne pour les mi-mandats parce qu'il veut reprendre la Chambre. Il y avait une tribune en Ohio pour soutenir un des candidats républicains versus un autre candidat républicain. Mais l'autre candidat républicain avait soutenu la mise en accusation contre Donald Trump en lien avec les émeutes du Capitole. Puis on sait qu'il est très acerbe contre tout le monde qui va contre lui. Il a encore une fois dénoncé les fraudes. Il a dit qu'à cause de la COVID, les démocrates avaient triché. Fini pour Donald Trump pour l'instant, mais elle reste qu'est-ce qui va se passer voir en 2024. Dans le monde de la crypto, on sait que la Chine a fait un gros crackdown sur toutes les miners de crypto la semaine passée. Puis là, ce qui se passe présentement en lien avec ça, c'est que Bitmain Technologies, qui est la plus grosse compagnie qui vend des rigs de mining, donc une espèce de gros réseau d'algorithmes informatiques, donc plein d'ordinateurs connectés ensemble, ils ont arrêté la vente de machines. Parce qu'évidemment, tous les gens qui faisaient du mining de Bitcoin, il faut qu'ils déménagent de la Chine. Ils ont arrêté d'en vendre pour livraison immédiate de façon globale. Puis là, ça a fait que les prix ont vraiment droppé. Puis peut-être qu'à cause qu'il y a moins d'offres sur le marché, les gens qui veulent présentement se débarrasser de leurs machines vont pouvoir les vendre un peu plus cher. Est-ce qu'ils vont se repositionner aux États-Unis? À suivre. Finalement, aux États-Unis, ils ont frappé dimanche les installations utilisées par des milices soutenues par l'Iran à la frontière irako-syrienne. En riposte avec des attaques de drones qu'on voit de plus en plus. On a vu beaucoup de drones dans le conflit de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Donc, une arme de plus en plus redoutable. Et qui ont fait des frappes à la frontière irako-syrienne. Ça a été sur les ordres de Joe Biden. Puis finalement, très tristement, en Éthiopie, où est-ce qu'on sait que les conflits ont repris relativement dernièrement entre les rebelles tigréens et l'armée fédérale éthiopienne, il y a eu le meurtre de trois médecins, de Médecins sans frontières, de trois bénévoles de Médecins sans frontières, un Espagnol et deux Éthiopiens. Le lendemain, leurs corps ont été retrouvés à côté de leur véhicule. Puis l'importance de l'aide humanitaire, elle peut pas être stressée assez au Tigré. Il y a 91% des Tigréens qui dépendent de